introduire, à laquelle nous consacrons une heure maintenant, en lisant dans l'avant-dernier chapitre du livre d'Ésaïe, à partir du verset 9. Lors de la dernière étude de la série sur l'attente de l'Église, que nous achevons aujourd'hui, c'est la dernière d'une série qui nous occupe depuis plus d'un an, j'ai lu un passage du chapitre 66 et je vous invite à lire maintenant à partir du verset 9 au chapitre 65 du livre d'Ésaïe. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Je ferai sortir de Jacob une postérité, oui, de Juda, des gens qui prendront possession de mes montagnes. Mes élus les posséderont, mes serviteurs y feront leur demeure. La plaine du Saron sera un pâturage pour le menu bétail, et la vallée d'Accor un gîte pour les bœufs, au profit de mon peuple qui se sera tourné vers moi. Mais quant à vous qui abandonnez l'Éternel, et qui négligez ma montagne sainte, qui dressez une table au dieu de la fortune, et remplissez la coupe pour le dieu du destin, je vous destine au glaive, et vous vous courberez pour passer tous à l'abattoir, puisque j'ai appelé, et vous que vous ne m'avez pas répondu, puisque j'ai parlé et que vous ne m'avez pas écouté, puisque vous avez fait ce que je trouve mal et que vous vous êtes compris dans ce qui me déplaît. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Mes serviteurs auront de quoi manger et vous aurez faim. Mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Mes serviteurs seront dans l'allégresse et vous serez dans la honte. Mes serviteurs crieront de joie car ils connaîtront le bonheur. Quant à vous, vous crierez le cœur plein de douleur, vous pousserez des cris, vous lamenterez, l'esprit tout abattu. Votre nom restera dans les imprécations de mes élus. Le Seigneur l'Éternel fera que vous mouriez. Mais à ses serviteurs, il donnera un nom nouveau. Et celui qui voudra être béni sur terre invoquera sur lui une bénédiction au nom du Dieu de vérité. Et sur la terre, on prêtera serment au nom du Dieu de vérité. En effet, les maux du passé seront tous oubliés, ils disparaîtront de ma vue. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours tout remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. J'exulterai moi-même à cause de Jérusalem. Et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs, ni cris de détresse. Là, plus de nourrissons emportés en bas âge, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de 16 ans. Ce sera mourir jeune que mourir centenaire. Et si un pécheur ne dépasse pas les 100 ans, c'est qu'il aura été maudit. Ils se construiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront plus de maisons pour qu'un autre y habite à leur place. Ils ne planteront plus de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre. Mes élus jouiront du fruit de leur travail. Ils ne peineront plus pour rien. Et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront une race bénie par l'Éternel et leur postérité le sera avec eux. Alors, avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai. Ils parleront encore que j'aurais déjà entendu. Les loups et les agneaux paîtront ensemble, le lion mangera du fourrage tout comme le bétail, le serpent mordra la poussière. Il ne se fera plus ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Nous avons considéré lors de la dernière étude, c'était déjà il y a plusieurs mois, de la série sur l'attente de l'Église, la question du châtiment éternel, de l'état final, qui attend ceux qui auront refusé jusqu'au terme de leur vie d'écouter l'appel du Seigneur. C'est une question qui correspond aux avertissements que j'ai lus tout à l'heure, il y a un instant, dans le chapitre 65 d'Ésaïe. Les paroles dures que nous avons entendues, nous en avons parlé la fois dernière, et nous avons vu comment il convient d'interpréter les passages bibliques qui prédisent la seconde mort à ceux qui n'auront pas mis leur confiance en Jésus-Christ. Heureusement, l'état final dont nous avons parlé n'est pas le seul dont nous puissions parler. Et dans le chapitre même d'Ésaïe, la note principale est la note de la promesse, la note de l'allégresse, de la félicité qui attend les serviteurs du Seigneur, ceux qui ont répondu à son appel et qui marchent dans ses voies. C'est le sujet qu'il nous faut enfin aborder. On pourrait dire que l'ensemble de notre série visait au fond depuis le début cet élément-là, puisque c'est l'élément tout à fait final. C'est le terme de toute notre existence, c'est celui que tout le drame du péché et du salut va connaître. À quoi il aboutit? À cause d'ailleurs de cette fin merveilleuse, certains ont dit que ce n'est pas une tragédie que l'Écriture déroule de sa première page à la dernière, mais plutôt une comédie. La différence entre la tragédie et la comédie, comme genre théâtral, c'est que la tragédie finit mal, elle fait surgir quelques-uns des problèmes les plus douloureux de l'existence humaine, et laisse le spectateur devant le terrible, qui n'est pas résolu. Alors que la comédie, qui parle très souvent aussi des questions douloureuses qui agitent les humains, la comédie finit bien. La comédie montre comment le mal est surmonté au terme. Alors si on adopte ces définitions, on peut dire que le message de la Bible dans son ensemble est du type de la comédie. C'est la divine comédie, pour reprendre un titre célèbre en changeant un peu son sens. Oui, les choses vont bien se terminer. Ce n'est pourtant pas un conte de fées. Il ne s'agit pas d'une superproduction hollywoodienne avec Happy End. Si nous soupçonnons la Bible de nous réconforter à bon compte en nous proposant ce que tout homme désire plus ou moins secrètement, ce dont il rêve, mais les réalistes diront « il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités », alors nous avons une réponse à donner. La réponse que la promesse de la Bible, la promesse de la béatitude finale, c'était mon titre dans mes notes, ou de la félicité éternelle, c'est le titre dans le dépliant, que cette promesse est une promesse qui est garantie par tout le reste de ce que la Bible nous présente. La Bible ne fait pas une promesse en l'air. Elle s'appuie pour nous assurer que telle sera bien la fin que le Seigneur nous accordera si nous plaçons notre confiance en lui. Elle nous assure par de multiples preuves. La promesse de la béatitude finale fait corps avec tout ce que nous avons dans la Bible, et nous savons bien que c'est du solide, que c'est vraiment sur le rocher que la Bible nous permet de construire toutes les prophéties qui se sont accomplies, et d'une façon qui passe l'entendement humain, et la beauté du Seigneur Jésus-Christ, qui est peut-être, au bout du compte, la plus grande des preuves. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Si quelqu'un voit quel est Jésus, comment ne peut-il pas être touché? Comment peut-il ne pas être touché? Et puis, sa résurrection, qui n'est pas un événement qui se soit produit dans un recoin obscur, mais qui fait l'objet d'une attestation de témoins crédibles, fiables, des gens de sens racis qui l'ont vu après qu'il avait été mort, revenu à la vie. Donc, c'est une promesse qui est fermement fondée que celle de la béatitude finale dont nous parlons maintenant. Trois grands volets pour dire ce qu'est cette béatitude. Je pense que le premier élément de l'allégresse, de la joie, de la félicité, du bonheur, tout des mots à peu près synonymes plus ou moins, le premier élément, le premier volet dans ce qui fait la béatitude des élus du Seigneur, de ses serviteurs, il me semble qu'on peut dire que c'est la fin du mal, l'élimination complète du mal. Comme dit le passage d'Ésaïe que nous avons lu, il ne se fera ni tort ni dommage. Ou d'autres passages, il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de deuil, plus de pleurs, plus de cris. Ce sera fini. Tout ce qui oppresse les humains, tout ce qui les tourmente, tout ce qui les chagrine même seulement, tout cela sera définitivement balayé. C'est là le premier élément de la promesse, la fin de ce qui est désigné comme mal et qui mérite d'être désigné comme mal dans l'existence humaine. Toutes les souffrances, les injustices, tout cela sera radicalement guéri et ne sera plus qu'un souvenir, un souvenir même sur lequel on ne s'attardera pas, de telle sorte que le prophète peut dire on n'y pensera plus. C'est le grand thème dans le passage d'Ésaïe. Je vais créer quelque chose de tout à fait nouveau, une Jérusalem pour la joie. C'est la nouvelle Jérusalem dont nous parle l'Apocalypse en sa fin. Et l'auteur de souligner que tout ce qui jette une ombre, et parfois pire, sur notre existence présente, ne sera plus. Et il ne faut pas s'achoper au langage de quelques-uns des versets de ce passage, en disant « Ah, mais d'après ce passage, il y aura encore de la mort, puisque le pécheur âgé de 100 ans sera maudit, il y aura encore de la mort dans cette nouvelle Jérusalem, dans cette création nouvelle, je crée des cieux nouveaux, une terre nouvelle, donc il y aura encore du mal. » Il faut bien comprendre que ce passage est écrit dans un style poétique et un style imagé, convenant à la situation d'Ésaïe, qui prêchait à un peuple d'orientaux. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que tout sera renversé, nos habitudes de souffrance seront complètement balayées. Aujourd'hui, si quelqu'un réussit à atteindre 100 ans, comme notre frère Monsieur René-Marie d'ailleurs, les gens s'ébahissent, il y a une cérémonie avec Monsieur le maire, et puis vraiment, ça paraît une bénédiction tout à fait extraordinaire aujourd'hui. C'est un maximum de bénédiction au plan temporel que de vivre si âgé. Et ce que dit le prophète, c'est que dans cette nouvelle Jérusalem, si ça se faisait, ce serait juste l'inverse, ce serait comme un signe de malédiction. Oui. Le prophète parle à ses auditeurs dans le langage de leur temps, de leur situation, surtout qu'on est dans l'Ancien Testament encore, sur le ciel, il y a peu de choses révélées encore. Et il parle donc le langage de leur temps qu'ils sont capables de comprendre pour leur dire « mais ce sera tout autre, ce sera merveilleusement différent ». Même les bénédictions les plus prisées ici-bas seront infiniment dépassées. Il y a une mystique, c'est comme ça qu'on l'appelle en général, du Moyen-Âge, Julienne de Norwich. En fait, il y a eu plusieurs éléments évangéliques dans ce qu'elle a laissé comme écrit, donc je ne sais pas si nous l'appellerions vraiment une mystique, mais c'est comme ça qu'on dit d'habitude, qui a une phrase très très belle pour dire cette victoire complète sur toutes les formes de mal au terme. Sa phrase est la suivante, je la traduis tant bien que mal, hein, mais tout sera bien, et tout sera bien, et toutes les sortes de choses seront bien. Voilà la promesse qui nous est faite en effet, la victoire sur le mal, plus de mort, plus de peine, plus de cris. Alors il me semble que nous pouvons poser à ce propos quand même deux questions. Voyez-nous, je ne me contente pas de prêcher dans cette leçon. Nous travaillons, nous faisons de l'étude. Donc il faut que je soulève les difficultés. Première difficulté, comment pourrons-nous être parfaitement heureux si nous savons que le châtiment éternel se déroule simultanément, qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont taraudés par le ver qui ne meurt pas, le feu qui ne s'éteint pas, et parmi eux, des gens que nous avons connus, des gens que nous avons aimés. Vous voyez, je crois que nous ne pouvons pas simplement adopter la politique de l'autruche et puis dire nous n'y pensons pas, nous n'y pensons pas. Je n'ai pas une solution comme ça, facile à cette question, pas du tout. Mais je pense que nous devons, dans la foi à la promesse de Dieu, dire que nous verrons les choses d'une manière qui nous satisfera pleinement, qui nous apportera, en la présence du Seigneur, une paix parfaite. Nous verrons que même cela, ce sera bien. Et bien, pas seulement pour nous, bien aussi pour ceux qui seront dans le châtiment. Alors, ce que j'ai expliqué la fois dernière, moi, je ne vais pas recommencer, de toute façon, M. Sidamon a des cassettes pour ceux qui n'étaient pas là, aide un peu à comprendre. J'ai expliqué que dans le châtiment éternel, d'après ce que je crois tirer de la Bible, il y a un accord entre celui qui est puni et Dieu. Il voit parfaitement quelle a été sa faute et il s'accorde avec le jugement de Dieu. Et puis c'est un état fixe, il n'y a pas de renouvellement. C'est l'état final. Et tout cela, je pense, nous aide un tout petit peu à comprendre que lorsque nous verrons les choses comme Dieu les voit, en ne cessant pas d'aimer ceux qui n'auront pas été sauvés, nous verrons que c'est bien pour eux aussi, que c'est le mieux possible, que c'est bien. Et nous serons donc dans la paix et la béatitude, en communion avec la sagesse de Dieu, même sur ce point. Moi, je ne peux pas dire plus. Je fais confiance au Seigneur à partir de ce que je crois comprendre, mais je ne saisis pas tout de cela. Mais je crois que nous pouvons vraiment faire confiance au Seigneur. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point, notre deuxième difficulté, d'un type très très différent, c'est la difficulté qui correspond au rôle positif que les obstacles jouent dans notre vie. Vous allez dire quoi? Mais si, quand nous jouons, qu'est-ce que nous faisons quand nous jouons? Quand nous jouons, nous créons des obstacles artificiels en quelque sorte, que nous pourrions très bien ne pas nous susciter pour le plaisir de les vaincre. Jouer, c'est en grande partie cela. On prend un puzzle, on mélange tous ces petits morceaux. Oh, vraiment, mais c'est idiot, quoi. On va se fatiguer ensuite à essayer de les remettre ensemble les uns à côté des autres. Mais c'est ça le jeu, c'est ça le plaisir de réussir. Alors, la question difficile qui surgit, c'est si il n'y a plus d'obstacles, plus de difficultés, c'est fini. Dans le ciel, est-ce que nous n'allons pas nous ennuyer? Oui. Alors là, aussi, je crois que nous devons essayer d'affronter la question. Alors je suggère que nous avons à faire la différence parmi les obstacles, parmi les difficultés qui surgissent, précisément entre celles qui sont mauvaises et celles qui ne le sont pas de ces difficultés. Je pense que la promesse de Dieu n'est pas que nous nagerons en quelque sorte dans la confiture et puis c'est tout. Non, Dieu nous a créés avec un potentiel qui se réalise, parce que nous sommes des créatures finies. Donc nous pouvons faire un certain nombre de choses, et puis il nous faut mettre en œuvre nos facultés pour réaliser ce que nous devons faire, et c'est là qu'il y a une difficulté qui exige de l'énergie pour que nous réalisions ce que nous avons envie de faire, et lorsque nos facultés données par Dieu, ce potentiel, se réalisent, alors c'est un plaisir, parce que nous sommes faits pour ça. Il y a une joie là. Eh bien ça, je pense, ça continuera dans la béatitude éternelle. Que nous n'avons aucune raison de penser que ce sera éliminé, parce que ce n'est pas mauvais cela. C'est pas mauvais. C'est une très bonne chose. Ça fait partie du sel de la vie telle que Dieu l'a créée pour nous. Alors pourquoi est-ce que ce serait éliminé de la nouvelle création? Je ne pense pas que nous ayons à le craindre, à le redouter. Face à une idée peut-être simpliste de l'harmonie finale. Cette harmonie finale inclut ces éléments antithétiques, un peu comme dans les jeux. On ne pourra pas dire que dans un jeu, la difficulté qu'on fait surgir soit un mal. Donc, l'analogue peut continuer d'exister dans la félicité éternelle, me semble-t-il. Ça, c'est ma solution à la deuxième difficulté que je voyais surgir. Donc, tout sera bien, et tout sera bien, et toutes les sortes de choses seront bien. Deuxième volet, deuxième ingrédient, l'accomplissement de l'humain. Je viens de parler de potentiel comme caractéristique de l'existence humaine. Nous sommes des êtres qui réalisent des choses et se réalisent en vivant. C'est pour ça que nous avons été programmés. La promesse, c'est que nous atteindrons la pleine réalisation, à la fois de ce que signifie être humain, en général, pour ce qui nous est commun, et pour ce qui est de chaque don particulier, pour le profil particulier qui caractérise chaque individu. C'est, je pense, ce que peut suggérer le thème du non nouveau, qui n'est pas seulement un non nouveau donné à tous ceux qui invoquent le Seigneur, mais un non nouveau pour chacun que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Cette parole qui se trouve, vous le savez, au début de l'Apocalypse, dans l'une des lettres de cette Église, m'impressionne beaucoup, me ravit. Le Seigneur donne un caillou blanc au vainqueur, celui qui va être dans la communion avec lui, et sur ce caillou est écrit un nom que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est le symbole de ce caractère unique qu'a la relation du Seigneur avec chacun des siens. Nous ne sommes pas interchangeables pour Dieu. Nous avons chacun notre nom. Et il y a un élément d'intimité éternelle dans notre union personnelle au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu notre Père. Et donc, notre béatitude finale sera une béatitude d'accomplissement. Nous sommes tous des handicapés sur cette terre. Nous réalisons imparfaitement le potentiel de notre humanité et de ce que Dieu veut pour en associer à notre nom particulier, propre, qu'il nous donne. Mais tout cela sera levé et ce sera comme une éclosion de tout notre être qui sera pleinement accompli. Alors, quelques points particuliers à ce propos. Premier point, c'est bien tout notre être qui sera accompli. Or, nous sommes âme et corps. Nous ne sommes pas de purs esprits. Et la promesse, c'est que nous jouirons de la béatitude finale, non seulement avec un esprit pleinement régénéré et sanctifié, mais aussi avec un corps adapté à cet esprit et appelé pour cela corps spirituel. Ce sera une béatitude de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Ils seront conjointement accomplis au terme du dessein de Dieu. Nous en avons déjà un peu parlé parce que nous avons parlé de la résurrection, mais je le rappelle maintenant, et je rappelle aussi que cela va avec la promesse d'une nouvelle terre. Le sujet d'aujourd'hui, la béatitude finale ou la félicité éternelle, ce n'est pas le ciel. Comme trop souvent, je crois que nous considérons que les expressions sont interchangeables, qu'on peut remplacer félicité éternelle par le mot ciel. Et non, c'est le ciel et la terre, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la nouvelle création de Dieu. Parce que si nous avons un corps, il faut qu'il corresponde à une terre. Notre corps n'a de sens que par rapport à une terre. Et c'est bien ce qui est promis. Nous attendons une nouvelle terre où la justice habitera, comme dit la fin de la seconde épître de Pierre. Ça fait partie de l'accomplissement de l'humanité. Vous savez que le mot « homme » en hébreu, « Adam », est le jumeau linguistique du mot « terre », le sol, la terre, « Adama ». Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel à l'humanité que d'être lié à une terre. Alors après la mort, lorsque notre corps se dissout, Certes, c'est déjà la béatitude pour nous, purs esprits dans le ciel, mais ce n'est quand même pas encore l'accomplissement final. Ce n'est pas encore le terme. Il manque encore quelque chose puisqu'il manque le corps. Et nous ne sommes pas de purs esprits. Et l'annonce nous est faite donc que nous jouirons de la plénitude de notre humanité dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors je souligne à ce propos que il ne faut pas se méprendre sur certaines paroles du Seigneur Jésus quand il dit, de toute façon c'est un langage imagé, que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, il vaut mieux entrer borgne dans la vie éternelle que d'être jeté avec ses deux yeux dans la géhenne de feu. Ou de même, si ta main est une occasion de chute, mieux vaut entrer manchot, etc. Jésus ne dit pas qu'on reste borgne ou qu'on reste manchot dans la vie éternelle. Il s'agit de l'entrée dans la vie éternelle. Donc même si on prend très littéralement ce qu'il dit là, ce qui ne serait pas, je crois, une lecture très très fine, même si on prenait littéralement ce que dit Jésus, ça ne voudrait pas dire qu'on reste manchot, qu'on reste handicapé dans la vie éternelle. Si un certain renoncement a impliqué un certain handicap, ça peut arriver. C'est pour l'entrée dans la vie éternelle. Mais après ça, c'est l'accomplissement. Ce qui veut dire que toutes les insuffisances dont nous souffrons dans notre propre personne, quant à notre développement sur la terre, tout cela trouvera plein remède. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Le deuxième est lié au premier, il s'enchaîne, hein, tout simplement. Le deuxième, c'est que du coup, sur cette nouvelle terre, nous sommes actifs. Ça fait partie de la vocation humaine fondamentale, et je ne pense pas que ce sera aboli. Nous serons actifs, nous servirons le Seigneur. Il y aura des tâches diverses, exaltantes, à accomplir. Nous avons chanté tout à l'heure, on était très heureux qu'on chante ce cantique. Pour toi, je voudrais vivre des siècles par milliers pour te servir et suivre tes merveilleux sentiers. C'est bien ça. Nous vivrons pour le Seigneur des siècles par milliers, par milliers de milliers, par milliards de milliards. Nous vivrons des siècles par milliers pour le servir, suivre ses sentiers. Il ne s'agira pas seulement de chanter. Oui, bien sûr, nous chanterons beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et certainement, nous y trouverons un immense plaisir, bien plus qu'aujourd'hui encore. Mais ce ne sera pas seulement ça. Il y aura un accomplissement de tous les aspects de notre condition humaine. Cette pensée du service à accomplir, je la rattache quand même, je sais bien que c'est une parabole, il faut donc faire attention, à la parabole des mines, au chapitre 19 du livre de Luc. À ces bons et fidèles serviteurs qui ont mis en valeur les dons qui leur avaient été confiés sur la terre, le Seigneur ne dit pas seulement « Entre dans la joie de ton maître », mais il leur dit « Je t'établis sur 5 villes, je t'établis sur 10 villes ». Et apparemment, il y a un service, il y a un exercice de responsabilité qui est aussi prévu sur la nouvelle terre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront imbriqués d'ailleurs. D'après l'Apocalypse, on voit bien que ce n'est plus les cieux tout là-haut, puis avec une immense séparation, la terre tout en bas, mais la Jérusalem céleste des cieux descend sur la terre. Et la nouvelle terre est une terre tellement transformée qu'elle n'a plus besoin de soleil ni de lune, mais que c'est la gloire même du Seigneur qui est son soleil. Celui qui l'éclaire, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Voilà ce que dit l'Apocalypse. Donc, en fait, le ciel et la terre, en quelque sorte, s'épousent. Le ciel et la terre s'interpénètrent, et nous sommes sur la nouvelle terre, et nous sommes dans le ciel en même temps, dans cette béatitude. Mais non, la terre s'interpénètre, et nous sommes sur la nouvelle terre, et nous sommes dans le ciel en même temps, dans cette béatitude. Mais nouvelle terre, avec des tâches à accomplir, avec des services à rendre, et qui contribueront à notre félicité. Quelle joie ce sera de servir le Seigneur avec toutes les ressources de notre humanité mises en œuvre, sans aucune lacune. Donc ça, c'est le deuxième point que je mets tout spécialement en relief. Et le troisième élément, qui correspond à ce qu'est notre humanité, à la fois commune et singulière pour chacun, concerne les relations avec les autres. Là aussi, c'est très important pour définir ce qu'est être humain. Être humain, c'est être en relation avec d'autres. Et c'est pourquoi il est tellement pénible d'être solitaire, que la solitude est tellement déshumanisante, parce que l'humain est fait pour la relation. Alors qu'en sera-t-il ? Ben, ce sera aussi l'accomplissement de toutes nos relations humaines. Là, je touche la question qui est souvent posée de manière un petit peu sommaire ou naïve sur de la manière suivante. Est-ce qu'on se reconnaîtra au ciel ? Est-ce qu'on se reconnaîtra au ciel ? Ben, moi, je crois qu'il faut répondre oui, très fermement. Alors, c'est pas seulement le ciel, donc, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais oui, notre individualité sera préservée et les relations accompliront pleinement notre humanité. Les relations que nous aurons nouées sur la terre atteindront leur plénitude. Tout ce qui y était mauvais en sera éliminé, elles seront parfaitement purifiées, tous les malentendus seront levés et ces relations seront pleines et entières. Et nous ferons des relations avec des tas d'autres humains, mais oui. Je crois qu'il est tout à fait normal de se dire, mais quand ce sera dans cette béatitude, j'irai demander à l'apôtre Paul exactement ce qu'il a voulu dire ici ou là. J'irai rencontrer François Coillard, Calvin, même Mozart. Hein. Moi, je pense que nous rencontrerons Mozart là-haut. Et je nourrai et accomplirai donc toutes les relations. Et tout ce qui concerne les êtres que nous avons aimés sur la terre trouvera son accomplissement aussi. Nous pouvons en avoir la certitude dans le Seigneur. Alors, en ce qui concerne une preuve biblique formelle de la reconnaissance des personnes individuelles, bon, je me baserai d'abord sur le fait que Élie et Moïse, lors de la transfiguration, sont parfaitement reconnaissables, on les reconnaît. Donc, vous voyez, il est bien clair que dans l'au-delà, les traits distinctifs de l'identité individuelle sont préservés. Et puis, plus directement lié à cette pensée de la béatitude qui nous attend et que nous attendons, il y a les paroles de l'apôtre Paul sur ceux qui sont nés de nouveau par son ministère, qui seront sa couronne, sa joie en ce jour-là. Si c'était l'anonymat, si on ne se connaissait plus, il ne pourrait pas parler comme il le fait. Donc, je crois qu'on peut dire, c'est clair, il y a un accomplissement de toutes ces relations humaines. La plénitude de l'humanité, c'est aussi la plénitude de la vocation suprême de l'humain, qui est de connaître Dieu. Car la relation qui caractérise l'être humain, ce n'est pas seulement la relation avec les autres humains, mais la relation avec celui qui est comme le premier et le dernier, celui qui nous a donné l'être, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et ça, c'est en fait le troisième volet. Le troisième et principal élément de la béatitude finale, c'est la jouissance de la présence de Dieu. C'est la pleine connaissance que nous aurons de lui. Nous le verrons face à face. Voilà ce qui est la promesse formelle. Nous l'avons chanté dimanche dernier, vous vous rappelez, voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. C'est finalement cela qui fera notre béatitude. Et si nous pensons qu'autre chose aurait priorité par rapport à cette joie-là, alors nous sommes sur un chemin qui ne conduit pas à la béatitude finale. Nous sommes déjà sur une fausse piste. Ce qui doit vraiment nous émouvoir merveilleusement, nous porter vers ce jour où nous connaîtrons la béatitude éternelle, c'est la promesse que nous connaîtrons notre Seigneur comme nous sommes nous-mêmes connus, c'est-à-dire parfaitement, que nous le verrons face à face. L'expression se trouve en particulier dans le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, où l'apôtre dit que pour le moment, nous connaissons en partie, partiellement, comme dans un miroir, d'une manière obscure, disent la plupart des traductions. En fait, littéralement, c'est en énigme. C'est le mot grec énigme, aenigma, qui est employé. En énigme. Je ne pense pas que l'idée soit principalement d'obscurité, parce que c'est pas mis dans le texte original. C'est pas l'idée que c'est obscur, c'est l'idée que c'est indirect, que ça reste plein de questions, d'énigmes. Nous le connaissons, mais nous le connaissons par le ricochet de ses œuvres, avec des paroles qui utilisent nos pauvres mots, et il reste des tas d'énigmes que nous ne débrouillons pas. La promesse, c'est que nous le connaîtrons face à face, de manière directe. Une communion qui ne fera plus de zigzag, ce sera là la condition nouvelle de notre connaissance du Seigneur. Le mot face à face montre en même temps que la distinction demeurera. Quand on est face à face, on ne se confond pas. Ce n'est pas une dissolution dans le grand tout comme une goutte se perd dans l'océan. Face à face, personnel, mais sans le besoin d'éléments intermédiaires en quelque sorte. Nous n'aurons plus seulement des signes qui nous parlent de lui, mais voilà, nous serons avec lui de façon immédiate. Et cela est vrai pour Dieu comme Dieu. Cela est vrai pour la connaissance du Père Céleste, et cela est vrai pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Fils qui est devenu notre frère, qui a pris notre humanité, et l'accomplissement de notre humanité, c'est que nous serons semblables à lui, le voyant tel qu'il est. Nous serons semblables à lui en son humanité, de même que nous avons porté les caractères adamiques, étant nés d'Adam, nous porterons le caractère de l'humanité de Jésus-Christ, qui est le nouvel Adam, l'Adam final. Voilà la promesse qui nous est faite. Le connaître lui-même de manière intime, directe, plénière. Alors à ce propos, il me semble qu'il y a aussi une ou deux questions qu'il faut toucher. La première, peut-être la plus difficile, c'est celle qui concerne le caractère fixe ou évolutif, pourrait-on dire, de cette connaissance. Souvent, on imagine que cette connaissance parfaite étant parfaite, bien elle atteint immédiatement son état et reste la même, identiquement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'enseignement de la Bible. C'est une idée qui est très souvent admise, mais sans beaucoup de réflexion. Bon, je suis d'accord que la formule « être connu, connaître comme nous sommes connus » pourrait laisser penser cela, puisque nous sommes connus, en quelque sorte, à 100%, et puis c'est tout. Mais d'autres données dans la Bible me semblent montrer que, conformément à notre humanité, nous continuerons de progresser. C'est l'infini de la bonté de Dieu que nous ne cesserons d'explorer tout au long de l'éternité. Afin de mieux connaître ton amour rédempteur, je voudrais t'entremettre avoir 10 000 cœurs, mais nous aurons un cœur qui s'élargira 10 000 fois. Pour le cœur, c'est l'organe de la connaissance, de la compréhension dans la Bible. Pour comprendre toujours mieux, mais nous n'aurons jamais fini, parce que Dieu est infini. Donc, il y aura, je crois, une progression perpétuelle, et ça, c'est une joie supplémentaire pour moi de le penser. Car si tout était en bloc, je ne sais pas, il me semble qu'il manquerait encore la richesse de cette progression perpétuelle dans la connaissance de Dieu. Et c'est dans ce sens que je comprends la formule, toujours dans le même chapitre de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, donc le chapitre 13, qui est dit que maintenant trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Alors que tous les dons qui sont liés à notre condition terrestre, les dons de connaissance, le présent et d'autres, eux vont disparaître quand ce qui sera parfait viendra. La foi et l'espérance ne cesseront pas. Elles demeurent, elles. Or, foi et espérance, ça suppose un mouvement. La foi se projette en quelque sorte en Dieu, l'espérance se tend vers ce qui viendra de lui. Dans un sens, l'espérance sera accomplie, et c'est dans le sens du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Là, nous verrons ce que pour le moment nous ne voyons pas et que nous espérons. D'accord. Dans ce sens-là, l'espérance sera finie. Mais ce n'est pas toutes les formes de l'espérance qui seront finies. Dieu étant infini, nous attendons toujours plus de lui. Nous serons toujours dans l'attente de ce qu'il nous montrera de lui, d'où le mot espérance. L'espérance demeurera. Si ces modalités présentes doivent passer, nous qui marchons par la foi et non par la vue, la foi et l'espérance, dans leur essence, continueront. Parce que Dieu demeurera toujours infiniment plus grand que nous et nous entraînera, nous attirera constamment à lui. Et c'est un élément, je pense, de notre béatitude. Donc cela me semble, à propos de la connaissance de Dieu, vraiment un point important. Autrement, je pense que il y aurait bien d'autres aspects que l'on pourrait essayer de traiter de cette connaissance plénière, mais il me semble qu'il faut souligner qu'elle n'impliquera pas la fusion que certains rêvent parfois, la dissolution de la distinction individuelle. Et la formule clé à ce propos, une très belle formule pour évoquer cet état final, c'est Dieu tout en tous. Dieu sera tout. Il sera tout pour nous. Et il y aura cette connaissance directe dont j'ai parlé il y a un instant. Mais en tous. C'est-à-dire que ce ne sera pas une seule masse, un seul magma. Dieu tout en tous. Et j'aime beaucoup une opposition de formule que j'ai trouvée dans un livre de Denis de Rougemont qui contraste cette pensée biblique où la distinction subsiste avec la pensée de l'Inde, où la distinction s'abolit, où elle est considérée comme irréelle. Il dit, en Inde, c'est le soi, soi, S majuscule, oui, le soi, seul en tout. Et la Bible oppose Dieu tout en tous. Je crois qu'en effet, c'est hautement significatif. Alors, un dernier mot. Pour qui cette béatitude? Quelles conséquences pratiques aujourd'hui tirées de la promesse que nous venons d'évoquer? Je pense que la réponse est très simple, mais qu'il faut encore l'énoncer. Comme je l'ai dit dès l'introduction, il y a deux catégories. Ésaïe le fait ressortir très très fort, où Dieu parlant par Ésaïe. Ce n'est pas automatiquement qu'on se dirige vers cette béatitude finale. Il faut devenir serviteur de Jésus-Christ, serviteur du Seigneur. Il faut écouter sa voix et aller vers lui. C'est une décision indispensable qu'il faut prendre pour que cette promesse de félicité sans nuage, cette promesse-là puisse être vraiment nôtre. Et puis pour ceux qui ont cette assurance, qui connaissent cette promesse, alors c'est la première épître de Jean au chapitre 2, au début du chapitre 3, qui tire la conséquence. Celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même le Seigneur est pur. C'est une motivation dans notre marche chrétienne vers ce but. Une motivation dans le sens de la sanctification, d'une appartenance toujours plus étroite et intime au Seigneur que cette promesse doit susciter. Voilà ce que je voulais vous présenter dans l'étude de ce matin, et qui était la dernière donc de notre série concernant les sujets de l'espérance. Alors nous avons encore 8 minutes pour achever l'heure même depuis que nous avons commencé. Donc il peut y avoir quelques questions. Et puis il faudrait aussi que nous choisissions un sujet pour les études qui vont suivre dans les mois qui viennent, si vous en avez. Monsieur Sidamon m'a fait une suggestion, en tout cas une au moins, je pourrais la dire, mais donc d'abord maintenant des questions sur ce qui a été dit aujourd'hui, et puis ensuite nous verrons quel sujet nous pourrions aborder dans les mois qui viennent. Monsieur Grandjean. Merci bien de le dire. Oui, donc la question porte sur ce que devient la relation conjugale, la relation entre l'homme et sa femme, la femme et le mari. Le Seigneur Jésus, interpellé par les Sadducéens, au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, en parle. Alors, que faut-il en dire? Alors, je vous livre mon interprétation, qui peut peut-être être contestée. Je crois qu'il faut se rappeler que la réponse de Jésus est une réponse à ces Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection et qui lui lançaient dans les jambes une question pour le faire tomber. Et ces Sadducéens faisaient ça déjà avec les pharisiens. Les pharisiens croyaient à la résurrection, les Sadducéens n'y croyaient pas, et les Sadducéens avaient inventé une petite histoire pour embarrasser les autres. Il leur disait... Une femme a eu un premier mari, il est mort, pas d'enfant, d'après la loi dite du Lévirat dans l'Ancien Testament, c'est son frère qui devait la prendre alors pour femme, c'est ce que le frère a fait, il est mort à son tour, troisième frère, quatrième frère, etc. Et donc, à la résurrection, duquel sera-t-elle la femme? Alors, comment est-ce que Jésus répond? C'est très très intéressant et significatif. Il leur dit, vous errez parce que vous ignorez deux choses, les Écritures et la puissance de Dieu. Vous avez une lecture myope en quelque sorte. Vous oubliez certains grands thèmes bibliques. Jésus réaffirme la résurrection, mais il affirme en même temps que dans l'état final, on ne se mariera plus, on ne donnera plus en mariage. Et il dit, ils seront égaux aux anges, les hommes et les femmes. Il ne dit pas ils seront en tout point semblables ou identiques aux anges, mais ils seront égaux aux anges. Il fabrique, dans l'un des évangiles, en tout cas c'est le terme employé, un mot composé, is angeloi. Is angeloi, le is c'est ce qu'on a dans isotherme, vous savez, indiquant l'égalité, isotherme de même température. Is angeloi, égaux aux anges. Voilà le terme qu'emploie Jésus. À mon avis, Jésus ne veut pas dire par là, il réplique aux Sadducéens, que la relation entre l'homme et la femme sera purement et simplement annulée sans rien qui, en quelque sorte, s'en perpétuera, correspondra dans l'état final. Jésus montre que la difficulté suscitée par les Sadducéens est une difficulté qui ne tient pas, parce qu'ils imaginent une résurrection exactement dans les mêmes formes d'existence que l'existence présente. Mais Jésus, soulignant donc le caractère nouveau, autre de l'existence céleste, ne me semble pas dire qu'il n'y aura plus de relation du tout. Simplement, elles seront changées de telle sorte que la difficulté suscitée par les Sadducéens ne se posera pas, que ça ne fera pas de problème. Et guidé par le principe général de l'accomplissement de tout l'humain, je conclus pour ma part qu'il y aura aussi un fruit, une moisson, un accomplissement pour les relations contractées par mariage sur cette terre. Mais ce sera une autre forme, et quand il y a eu plusieurs mariages sur la terre, ce ne sera pas gênant. Alors comment ce sera, je ne peux pas vous dire davantage, hein, mais je crois que je peux faire cette confiance que dans le changement de coefficient, de plan, de la création présente à la création nouvelle, les difficultés auxquelles pensaient les Sadducéens seront éliminées. Mais ça n'enlève pas le principe général de l'accomplissement. La relation homme-femme, je ne sais pas assez quelle est la position islamique. Bon, je sais que dans les descriptions du paradis, il est question des jeunes filles à cortes qui accueilleront les hommes là-haut. Mais quel est le degré de littéralité déjà? Peut-être peut-on en débattre même quant à l'interprétation du Coran. Et moi, je ne suis pas assez au courant pour en dire quelque chose de précis. Oui, oui, je pense que ce que vous essayez de mettre en valeur, c'est ce que j'essayais de dire aussi il y a quelques instants, qu'il y a un changement, que c'est sur un autre plan, que notre corps sera un corps différent du corps présent. Il y aura égalité avec les anges, non pas identité, puisqu'ils ne semblent pas avoir de corps, mais il y aura égalité. Nous vivrons avec une facilité, je dirais même de déplacement, qui sera égale à celle des anges. Donc, les questions que nous pouvons nous poser sont probablement à côté de la cible. Alors vous dites, il y a peut-être certaines subtilités qui ne seront pas présentes. Moi je dirais, ce sera sans doute encore plus subtil au sens positif du terme, plus fin, plus nuancé que l'existence présente, où nous sommes trop souvent des lourdeaux, tout cela de façon parfaitement saine et où les difficultés de l'entrecroisement des relations diverses, plusieurs mariages dans une vie par exemple, mais aussi n'importe quelle incompatibilité dans nos relations, un des problèmes de l'existence humaine, un des maux dont nous souffrons, c'est que nous avons une amitié et notre amitié peut interférer, ça crée des problèmes, il y a des tensions, si on est avec quelqu'un, l'autre personne est jalouse, etc. Bon, n'est-ce pas? Puis, ça fait partie des difficultés. Tout cela, alors, trouvera un parfait remède. Il y aura une plénitude qui, là, ne laissera aucun regret.
Seigneur, si nous oublions aussi la puissance de Dieu sur ce sujet-là.
Oui, je pense que c'est cette puissance de Dieu qui implique le changement de coefficient ou de plan, comme je dis. Parce que toutes les finesses, toutes les particularités individuelles ne seront pas exprimées plus fort, si, moi c'est ce que je crois vraiment, et de manière qui sera parfaitement compatible. Il y aura harmonie avec l'expression de tous les autres. Ce ne serait pas aussi précis. Il paraît que, d'après ce que M. Röhrich a retenu, l'enfer se trouverait de l'autre côté de la Nouvelle Terre, sur un autre côté de la Nouvelle Terre. Moi, je ne me prononce pas sur la localisation. Monsieur Jacques Buchold aurait dit cela. Alors, c'est ce que nous emportons, en quelque sorte, au-delà, et en particulier en rapport avec nos œuvres et la sanctification. L'exigence de la sanctification pour voir le Seigneur, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, comme dit l'Épître aux Hébreux, je crois, ne se rapporte pas tant aux œuvres qu'au fait que c'est seulement en s'engageant sur le chemin que j'ai évoqué pour finir que nous allons vers cette béatitude. C'est un avertissement. Celui qui ne connaît pas la sanctification, il ne connaît pas le Seigneur. C'est clair. Il y a des rechutes, il y a des détours terribles dans la vie chrétienne, mais s'il n'y a pas de sanctification du tout, alors il n'y a pas connaissance du Seigneur. Et le Seigneur dira, en ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Donc, pour la sanctification, c'est comme ça que je répondrai. Maintenant, pour l'autre aspect de la question, je dirais que c'est l'accomplissement pour les œuvres aussi. L'image clé dans la Bible, il me semble que c'est l'image de la moisson. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera aussi. Alors, toutes les œuvres qui ont des germes, qui sont des germes de louange, de service du Seigneur qui lui plaisent, elles auront leur moisson de l'autre côté. Et je pense que la diversité des récompenses est à comprendre de cette façon. Et des services, là je reviens à la parabole des mines en Luc 19. Justement, nous aurons des responsabilités, nous aurons des tâches qui prolongeront en quelque sorte ce qui a été fait sur la terre avec l'assistance du Saint-Esprit et qui aura pu être agréé par Dieu. Et ce sera donc diversifié aussi. Ce sera la moisson des semailles terrestres. Voilà comment, et je répondrai en gros. Question donc du rapport de la nature humaine, de la nature divine de Jésus-Christ dans les perspectives qui ont été les nôtres cet après-midi, ce matin. Oui, on est presque, oui, c'est après-midi quand même, c'est déjà midi passé. Mais, donc, pour cette question, il y a un débat d'exégèse sur le texte de la première épître de Jean qui a été mentionné, et les données bibliques en général. La partie divine de notre être, le Saint-Esprit habite en nous, mais il n'est pas notre propre esprit. Il rend témoignage à notre propre esprit. Alors bien sûr, cela continuera, cela aura sa plénitude. Le Saint-Esprit nous habitera, mais nous ne deviendrons pas Dieu. Et les deux natures en Jésus-Christ demeurent distinctes. Être Dieu et être homme, pour lui, ce sont deux choses distinctes. Alors nous serons semblables à son humanité et en communion parfaite avec la divinité. Cela dit, il faut se rappeler qu'être homme, c'est être image de Dieu. Donc, nous serons, bien sûr, en un sens aussi semblables à Dieu, en étant de parfaites images, au lieu d'être des images trop caricaturales que nous sommes aujourd'hui. Le renouvellement de notre être en image de Dieu atteindra lui aussi son but. Donc, dans ce sens, nous serons semblables, mais ce ne sera pas l'identité. C'est à titre d'image de Dieu. Alors que nous serons, dans notre humanité, exactement comme Jésus-Christ, avec un corps semblable au sien, au sien ressuscité. Voilà comment je répondrai à cette question. Alors maintenant,